On va prier le Seigneur d'abord en premier, s'il vous plaît. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions parce que tu es vivant. Et nous te remercions parce que tu nous parles. Tu nous parles par ta parole et tu nous parles aussi avec ton esprit. Et les deux associés, alors tout peut se passer. Les miracles peuvent se produire. Les changements peuvent s'opérer. Les guérisons peuvent être mises en place. Les restaurations des vies brisées, des cœurs brisés peuvent également se former, se lever. Merci, parce que nous nous attendons à toi, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, tout est possible. Et nous croyons cet après-midi que tu as un rendez-vous. Tu as donné rendez-vous à plusieurs ici. Bien sûr à nous tous, mais à quelques-uns qui ont particulièrement besoin de ton intervention dans leur vie. Je te loue, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Et toute la gloire à toi seul, au nom de Jésus. Amen. C'est un peu fort, le son. J'ai l'impression que ça m'envahit autour. Alors, je ne sais pas ce qu'il est possible de faire. C'est le retour, sans doute. On va faire une première lecture dans le psaume 25, au verset 6. Et avant de lire ces quelques versets, versets 6 à 8, j'avais tout à l'heure, dans la préparation de ces moments, voilà ce verset dans le psaume 50, verset 15, qui nous dit « Invoque-moi au jour de la détresse ». Je te délivrerai, tu me glorifieras. Ça, c'est la suite. Invoque-moi, je te délivrerai et tu me glorifieras. Alors, on va lire le verset 6 de psaume 25. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions, souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie, il conduit les humbles dans la justice. Amen. Et puis au verset 16, encore cette prière faite par le psalmiste, « Regarde-moi, aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse, vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. » D'un côté, ici, nous avons la compassion, la bienveillance et la bonté de l'Éternel. Et d'un autre côté, nous avons la solitude, le malheur, les angoisses, la détresse, la misère et la peine d'un homme pécheur. Entre les deux, la prière, tel un appel à la grâce et au pardon de Dieu. David était roi, il était chef aussi de l'armée, et il a voulu dissimuler son péché jusqu'au moment où Dieu lui envoie le prophète Nathan afin de le confronter à ses péchés, pour qu'il les reconnaisse et les avoue, et le but étant que finalement il parvienne à une repentance sincère. On peut lire dans le psaume 51 ce passage où David avoue devant Dieu qu'il a péché. Il reconnaît ses transgressions et son péché est constamment devant lui. On peut lire au verset 3. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche, dans ton jugement. Amen. Ici, il y a cet homme, David, qui, après avoir été confronté face à son péché, qu'il a voulu dissimuler, alors que son péché était quand même important, rappelons-nous, David a péché avec Bathsheba, il a commis un adultère avec la femme d'un de ses chefs, de ses sous-chefs, et ensuite, il a envoyé ce chef au front pour finalement l'amener à la mort. Donc il a commis également, on peut dire, un meurtre de manière différée, pas directement, mais le résultat, c'est un meurtre. Et il a caché, alors qu'il connaissait Dieu, il connaissait déjà la bonté de Dieu, et il a dissimulé son péché. Mais Dieu n'a pas permis, parce que Dieu est un Dieu de grâce. Dieu connaissait le cœur de cet homme. Il savait que dans son cœur, cet homme pouvait se reconnaître pécheur et demander le pardon à son Dieu. Et il est arrivé jusqu'à la repentance. Mes amis, pour que nous soyons véritablement sauvés, délivrés, libérés de nos péchés, aussi petits qu'ils soient, il faut parvenir à une repentance sincère. Devant Dieu, être vrai devant Dieu, reconnaître son péché, reconnaître sa faute, ses transgressions vis-à-vis de Dieu, et lui confesser son péché, et ensuite se repentir sincèrement. Un autre homme, qui pourtant a été trouvé et qui est resté intègre devant Dieu, qui connaissait Dieu d'une certaine manière, a connu aussi la solitude, le malheur, la détresse, la peine, la souffrance, perdant tous ses biens, perdant sa famille et sa santé. Et cet homme, dans son épreuve, vous devez sûrement le reconnaître pour ceux qui connaissent bien la Bible, et son affliction a tenu des propos à l'égard de Dieu dont il a entendu parler, propos qui ont dénoté qu'il ne le connaissait pas vraiment. Alors, il nous est dit que du milieu de la tempête, de son affliction, parce que l'affliction nous jette au cœur d'une tempête intérieure, au milieu de la tempête, l'Éternel lui répondit ceci. Job 38:1, je vous le lis. « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des propos dénués de connaissance ?» Parfois, on a entendu parler de Dieu. C'est peut-être le cas de plusieurs d'entre vous cet après-midi qui venaient pour là ou les premières fois. Vous avez entendu parler de Dieu, vaguement, plus ou moins vaguement. Vous avez une approche de Dieu, mais vous ne le connaissez pas encore. C'est tout à fait différent d'avoir entendu parler de Dieu, de savoir quelques éléments de la parole de Dieu, mais tout à fait différent de le connaître, de rentrer dans son cœur. Ce matin, dans la prédication, on a été interpellé par l'importance de connaître, d'avoir cette intimité avec Dieu, de connaître quelle est vraiment sa bonté, son amour, sa grâce envers nous. Et cet après-midi, je crois que c'est la même chose pour chacun d'entre nous, et en particulier pour certains d'entre nous, de connaître vraiment l'amour de Dieu et la grâce de Dieu. Alors Job, puisqu'il est question de Job, il est arrivé à faire cette déclaration, mon oreille avait entendu parler de toi. Certes, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, après toute cette épreuve, après toute cette souffrance, après toute cette affliction par laquelle il est passé, après avoir tout perdu sauf la vie, il peut dire, mais maintenant, mon œil t'a vu. Et ça parle de son œil intérieur, l'œil de la foi, l'œil qui permet à l'intérieur de nous-mêmes de saisir que Dieu est amour. Et que même si on se trouve dans la détresse, Dieu est là, Dieu nous attend. Si on est dans la souffrance, dans la maladie, dans la solitude, Dieu est là, il nous attend dans son amour. Et il rajoutera ceci, c'est pourquoi je me condamne, c'est-à-dire quelque part je reconnais ma misère, je reconnais que je suis perdu sans toi, et je me repens. Job s'est repenti, était-il un pécheur? Je ne sais. Mais oui, certainement. Job avait conscience que lui aussi, même s'il était intègre devant Dieu, était un pécheur vis-à-vis de la bonté, de la perfection et de la sainteté de Dieu. Donc il a reconnu sa misère, il s'est condamné lui-même et il s'est repenti à l'égard de Dieu. La suite est glorieuse. La suite nous dit quoi? Elle nous dit qu'après avoir prié pour ses ennemis, enfin pas pour ses ennemis, pour ses amis, excusez-moi, mais c'est un lapsus un peu révélateur, ça aurait pu être pour ses ennemis, mais ses amis, quoi qu'ils étaient ses amis, n'ont pas été d'une grande utilité, et même, on pourrait dire le contraire, ont été à un moment donné en opposition avec lui. Donc, d'une certaine façon, ils étaient un peu ennemis. Ils n'ont pas aidé à Job, hein, vraiment. Et donc, il a prié pour ses amis, poussé par le Seigneur lui-même. Et qu'est-ce qui est arrivé? L'Éternel le rétablit. Nous avons un Dieu de rétablissement. L'Éternel le rétablit dans son premier état et lui accorda le double. Vous entendez bien? Le double de tout ce qu'il avait possédé. Gloire à Dieu, on a un Dieu vraiment généreux, de bonté, de bienveillance. Et il mourut âgé, ça va, et rassasié de jours. Autrement dit, il mourut heureux, avec son Dieu, parce qu'il s'était repenti. Je le crois que c'est de la plus grande importance. Si on se repent vraiment à l'égard de Dieu, on a conscience qu'on est des pécheurs, qu'on a vraiment besoin de sa grâce, qu'on a besoin aussi d'être sanctifié, de peut-être de revenir à lui de tout notre cœur, eh bien là, Dieu est prêt à nous rétablir. Parce qu'il voit si on est sincère dans notre repentance. Oui, la repentance est salutaire. Elle est salutaire et Dieu est bon, car sa bienveillance dure à toujours. Et pour bien imager, ou mieux imager, la bonté et la bienveillance de Dieu, Jésus utilisera plusieurs paraboles. Vous savez que Jésus parlait par paraboles et nous allons lire ensemble deux paraboles qui imaginent particulièrement bien la bienveillance et la bonté de Dieu. C'est la parabole au chapitre 15 de Luc, parabole de la brebis perdue et parabole du fils prodigue. On peut lire donc au chapitre 15, verset 1. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. C'est beau ça, hein? C'est eux, ils savaient qu'ils avaient besoin de Jésus. Parfois on ne le sait pas, mais on en a tous besoin. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes, ils sont toujours là, hein, murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux, patati, patata, etc., etc., etc. Mais il leur dit cette parabole. Jésus ne perdait pas de temps dans des discussions. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et puis un peu plus loin, on a la parabole du fils prodigue qui prolonge en quelque sorte cette image de la bonté, de la bienveillance de Dieu. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Le père est bon. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que manger les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré, il est vraiment tout seul. Il n'a plus que les pourceaux et les carouges. Sa solitude, sa misère et son péché. Il aurait bien voulu se rassasier. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai. » Ça, c'est une bonne décision. Si cet après-midi, tu es dans la misère, dans la solitude, et si tu entends la voix de Jésus, je crois que c'est nécessaire que tu te lèves. Ça commence dans le cœur, ça, cette décision. Et puis après, bien sûr, c'est une décision qui se traduit dans un acte concret. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut. Dieu court vers nous dans sa bonté, dans sa bienveillance, dans son amour. Il court vers nous. On ne le voit pas courir avec nos yeux. Mais en réalité, dans son amour, il court vers chacun d'entre nous. Il courut et à son cou, se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe et l'enrevêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, alléluia, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. » Voilà la bonté de l'Éternel. Voilà l'amour de Dieu, la grâce de Dieu manifestée. Au travers de cette parabole, on a un Père, on a un Dieu qui veut, comme un Père parfait, nous prendre dans les bras, se jeter à notre cou, nous faire grâce dans notre péché, dans notre misère, accepter notre repentance sincère, et puis ensuite nous revêtir d'un habit nouveau, celle de la justice de Dieu, celle de la pureté de Dieu, et ensuite se réjouir avec tous les rachetés, alléluia. Ici, on a dans ces deux paraboles, d'un côté la repentance du pécheur, de l'autre l'amour et la joie de Dieu ou du cœur de Dieu qui prend dans ses bras celui qui était perdu. Au passage, vous avez pu noter que dans la parabole de la brebis perdue, on a cette image du berger qui va prendre la brebis égarée, perdue, fatiguée, etc., qui la prend et qui la met sur ses épaules et qui la ramène dans le troupeau. Et ça, c'est l'image de Jésus qui nous ramène au Père, qui nous ramène à Dieu. Jésus, c'est le seul qui peut nous amener à Dieu et qui peut nous réconcilier avec Dieu. Et c'est ce qu'il veut faire cet après-midi. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, prêchera Jésus lui-même dès le début de son ministère. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Pas de salut, pas de réconciliation, pas de rétablissement, pas de guérison sans repentance. La repentance était à la fois une demande de pardon et un changement à la fois intérieur et extérieur vis-à-vis de Dieu. La Bible déclare que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Dans la mesure où on se reconnaît pécheur et dans la détresse, loin de lui. Dieu a tant aimé le monde, Dieu nous aime à un tel point qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher, Jésus, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu vous a tant aimé. Si tu n'as jamais connu l'amour, le vrai amour, cet après-midi, en te tournant vers Jésus, eh bien, tu vas recevoir l'amour de Dieu. C'est un don gratuit. Car si le salaire du péché, c'est la mort, le don gratuit de Dieu, la grâce de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Si tu veux avoir la vie en abondance, tu veux avoir la vie avec l'amour et tout ce qu'il y a à côté, si tu veux avoir la vie et la vie éternelle, eh bien tu dois te tourner vers Jésus-Christ. Alors Dieu, tout simplement, si tu crois en Jésus, Dieu te donnera ce qu'il a prévu de te donner. Éphésiens 1:7, je vous le lis, nous dit que en Jésus, nous avons en lui la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Dieu, dans sa grâce, est riche, il est riche en son amour. Sa grâce, c'est une infinie richesse pour chacun d'entre nous, quelle que soit notre situation. Quelle que soit notre misère, notre solitude, notre état intérieur, notre péché, la grâce de Dieu surabonde. La grâce de Dieu veut nous inonder. La grâce de Dieu veut répondre à notre besoin d'être réconciliés avec Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, 21, il est écrit « Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait péché. » C'est-à-dire sacrifice pour le péché. Pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et celui-là, c'est Jésus. Jésus a été fait péché pour nous. Il a pris toute la colère de Dieu sur lui, à cause du péché. Et en prenant sur lui le péché, alors, Dieu, l'ayant fait péché, eh bien, il peut nous faire devenir en lui justice de Dieu. C'est une merveilleuse grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle est merveilleuse. Elle est à saisir, elle est à découvrir, elle est à vivre. Ce n'est pas quelque chose de lointain, ce n'est pas quelque chose qui est abstrait. La grâce de Dieu, c'est tout simplement se jeter dans ses bras, venir à lui, tel que nous sommes, repentants, sincères et prêts à nous abandonner et à reconnaître qu'on a besoin de lui, qu'on a besoin d'être pardonné, d'être sauvé et d'être guéri. Et Ésaïe 53, et ce sera ma dernière lecture, avait déjà prédit, bien avant que Jésus vienne, eh bien, pourquoi Jésus a été blessé, brisé, meurtri, jusqu'à la mort sur le bois du calvaire? Pourquoi? Et là, on a la réponse. Dans Ésaïe 53, au verset 5, il est écrit, il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Que Dieu soit loué, glorifié. Voilà pourquoi Jésus est venu et a donné sa vie. Il a accepté d'être blessé pour nos péchés et d'être brisé pour nos iniquités. Il a accepté d'être meurtri, d'être flagellé, d'être insulté, rejeté, maltraité, méprisé. Il a accepté les pires des souffrances qu'on peut imaginer. À chaque coup qu'il a reçu, il pensait à nous. Il pensait à chacun d'entre nous. Il portait en lui cet amour qu'on a besoin, chacun d'entre nous. À chaque fois qu'il était frappé, il pensait à tous les pécheurs qui étaient loin de Dieu, qui s'enfonçaient jour après jour dans le péché, dans le malheur, dans la détresse. Il entendait, je crois même, le cri des détresses du peuple qui devait crier autour et il devait prier tout en étant frappé, humilié, maltraité. Voilà ce que Jésus a accepté pour chacun d'entre nous. Alors, Jésus a accepté de mourir de prendre le péché. Il a été mis au tombeau, mais le troisième jour, il est ressuscité. On l'a chanté. La mort n'a pu le retenir. Jésus est vivant au siècle des siècles. Jésus est ici par son esprit. Il revient bientôt chercher ceux qui lui appartiennent. C'est la bonne nouvelle aussi cet après-midi. Jésus revient. Jésus revient chercher ceux qui lui appartiennent. Moi, ça me met vraiment en joie. Et il va revenir régner sur la terre pendant 1000 ans. Ça ne vous réjouit pas plus que ça? Alors, je vais demander à la pianiste si elle veut bien venir. Où est-ce qu'elle est, la pianiste? On va rentrer dans un moment de recueillement. Chacun va s'examiner, chacun va se replacer, si je puis dire, dans ce qu'il vit, dans ce qu'il est, et considérer la grâce de Dieu pour lui, ce sacrifice d'amour. Peut-être faire remonter cette prière, « Vois ma misère et ma peine ». Le Seigneur le voit. Il la voit. Mais c'est bien aussi de le lui dire. Seigneur, cet après-midi, vois ma misère, vois ma peine. Pardonne tous mes péchés. Pardonne tous mes péchés. Et comme David, comme tant d'autres, en toute conscience maintenant, tu peux te repentir devant Dieu. Tu peux lui demander pardon. Et tu peux aussi le reconnaître maintenant comme ton sauveur, reconnaître Jésus comme ton sauveur, l'accepter pleinement dans ta vie, qui vienne maintenant prendre ta vie, la prendre entre ses mains, dans ses bras, sur ses épaules, de manière à ce que tu sois pleinement réconcilié avec Dieu. Alors que les fronts sont baissés, voilà, je vais juste demander à celles et ceux qui veulent répondre à cet appel cet après-midi de venir à Jésus, reconnaître qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu, de lever la main. Et on va prier ensemble, toute l'Église va prier. Qui lèvera sa main? Qui demandera pardon cet après-midi, sincèrement, à ce Dieu d'amour? Qui se reconnaîtra vraiment pécheur? Je n'insisterai pas, mais je referai encore cet appel. Oui, je vois ta main également. C'est un moment important pour toi, parce que si tu le fais en toute sincérité, Jésus devient ton sauveur et il peut aussi devenir maintenant ton maître et ton Seigneur. Merci Seigneur pour ces bien-aimés qui ont répondu à ta grâce cet après-midi. Nous te prions tous ensemble pour que ce qu'ils ont reçu de toi porte du fruit dans ton amour infini, dans leur vie, et qu'ils repartent de ce lieu changé et que ce changement produise du fruit à ta gloire. Merci parce que, Seigneur, tu parles, tu agis, il y a quelque chose qui se produit dans le plus profond des cœurs. Cet après-midi, tu es là, encore pour sauver, pour guérir, pour délivrer, pour libérer. Alors Seigneur, nous te demandons de continuer à agir maintenant, peut-être pour les cœurs brisés, les corps qui ont besoin aussi d'être... guéris de maladies, les esprits même, ou les âmes qui sont angoissées. Seigneur, merci parce que tu es prêt à répondre aux besoins. Merci maintenant, Seigneur, de continuer ton œuvre. Nous voulons, nous, juste bien prier conformément à ce que tu nous as demandé. Prier aussi pour les malades, toutes sortes de maladies, toutes sortes de brisements, afin que ta vie se répande en abondance dans les corps, dans les âmes, dans les esprits cet après-midi. Que tu sois glorifié pleinement. Et au nom de Jésus, nous voulons, Seigneur, te servir à travers tout ça et que ton royaume avance. Sois béni, Père céleste. Sois loué, Seigneur.
Nous espérons que vous avez été encouragé par ce message. Pour plus de renseignements sur notre Église ou découvrir d'autres messages de l'Évangile, n'hésitez pas à visiter notre site églisecielouvert.com et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Nous vous invitons également à nous retrouver chaque semaine à Saint-Étienne-du-Rouvray pour nous dire